Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Renaître en chemin, c'est le titre d'un ouvrage que vous découvrez depuis le début de cette semaine. Je reçois Michel Gou. Bonjour Michel Gou.
Bonjour.
Alors avec vous, c'est un chemin intérieur. C'est aussi des kilomètres et des kilomètres de silence, de prière pour certains, pour vous, sur le chemin de Compostelle. Et quand on parle de chemin de Compostelle, on ne peut parler que de rencontres, des rencontres qui déplacent, des rencontres qui donnent la joie au cœur. De l'amitié, de la solidarité, vous en avez parlé et reparlé au cours des deux premiers rendez-vous, de ces belles amitiés qui peuvent aussi apparaître et se créer au fil du chemin, et puis des liens de solidarité. On se soutient sur ce chemin, on se rencontre, on s'écoute. Et on s'émerveille aussi, et vous avez parlé de l'émerveillement dans ces moments aussi de marche, de lenteur, où le regard apprend dans cette lenteur à regarder peut-être à nouveau. Donc il y a peut-être une rééducation qui s'opère et qui se vit sur ce chemin de Compostelle. Alors il se vit de belles rencontres. Dans votre ouvrage, il y a 12 profils, 12 oui. témoins, oui. voilà, c'est spectaculaire. Oui. voilà. Et il y a la rencontre aussi, et vous en parlez, j'invite les auditeurs aussi à découvrir ces nombreux témoignages dans ce livre de Céline. Céline a aussi un parcours particulier.
Tout voilà. à fait.
Vous pouvez en dire deux mots de alors, cette Céline... rencontre.
Oui, Céline est en fait, elle est dans une communauté bouddhiste à Londres. Et elle partage son temps entre la pagode, les ashrams, etc. Et elle part sur Compostelle pour faire des méditations pleines conscience. Enfin, voilà. Donc, c'est des pratiques intenses de méditation, etc. Et donc, la première semaine, elle passe son temps là. Recherche un état de conscience supérieur et il lui arrive de tomber en arrêt devant à Bilbao de tomber en arrêt devant une statue de Jésus en fait en croix et là elle se pose une question et commence à l'analyser mais à partir des critères bouddhistes en fait bon c'est un homme d'une grande sagesse etc. bon qui a atteint un grand degré de conscience de ça. Et, mais chez les bouddhistes, la notion de dépouillement est très importante. Donc ça l'impressionnait aussi, ce Jésus, l'abaissement, pour laisser tomber son ego. Ça, c'est très fort chez les bouddhistes. Mais ce qui la sidère quand même, c'est que Jésus-Christ est allé encore plus loin dans l'humiliation, en fait. Et alors... Et commence à se poser la question, mais pourquoi il est allé jusqu'à la mort, lui qui a sauvé des foules entières, pourquoi il est allé jusqu'à la mort, bon. Et alors ça lui pose problème, et alors tout le long du chemin, bon, elle ne fait plus de méditation, elle a arrêté la méditation, et tout le long du chemin, elle croise ses Christ en croix, jusqu'à l'arrivée à Compostelle, où là, elle a une révélation totale, donc avec un bonheur immense. Elle éprouve un sentiment de plénitude totale et elle dit « J'ai rencontré Jésus, je veux me faire baptiser ». Voilà. Voilà l'histoire de Céline, c'est assez impressionnant.
Et vous avez rencontré Céline.
Oui, tout à fait.
Vous avez recueilli son témoignage,
son expérience.
Je suis
toujours en contact avec elle. Oui.
C'est des cadeaux, ces rencontres pour vous.
Absolument, oui. Oui, c'est bouleversant.
Qu'est-ce que ça vous dit de Dieu pour vous-même?
Ben, c'est la bonté de Dieu qui vient nous retrouver aussi loin que nous pouvons être. Il vient toujours, il vient nous retrouver. Dieu est capable de faire pousser des fleurs dans les déserts, je dirais, hein, comme des fruits dans les déserts arides.
Alors ouais, il est allé chercher cette non-bouddhiste, hein, mm-hmm. il est allé chercher cette franc-maçonne que vous avez évoquée au tout début entretien. Et puis là, on reste avec vous sur ces rencontres et sur ce chemin de Compostelle. Des rencontres, oui, vous en avez fait. Il y a cette magnifique rencontre avec ce portrait que j'ai beaucoup apprécié aussi. C'est un pèlerin quasi permanent, toujours en pèlerinage, c'est David. Alors racontez-nous l'histoire de David.
Alors David, c'est un pèlerin un peu particulier, hein, dans ce sens qu'il est, il est parti, il a quitté son métier, il avait un métier qu'il qualifiait de sans intérêt, quoi. Donc un jour il part, bon il n'a pas de famille, hein, il part avec son chien, et il devient un routard, en fait. Il a mis de côté un peu d'argent, mais très peu. Et il est sans religion, il part... Mais il se pose quand même des questions, il médite pendant des heures, à un moment il médite pendant des heures sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Et tout d'un coup, au fin fond d'une forêt, il aperçoit posé sur le bord du chemin un livre. Et donc il le prend, c'est une Bible. Alors, c'est quand même, ça provoque chez lui quand même comme un électrochoc, parce qu'il est en train depuis des heures de réfléchir à l'existence de Dieu, et là il trouve une Bible, il voit dans cet événement quand même comme un signe, et donc il se met à lire le livre, puis à le méditer et à le mettre en pratique. Et alors là, c'est là que des événements commencent à se produire. Et bon, il y en a plusieurs oui, bon, qui sont...
À découvrir écrits, en lisant
le livre.
Le livre. Oui, oui.
Et, donc, il rentre dans une église pour la première fois de sa vie. Il se confesse pour la première fois de sa vie. Et puis jusqu'au
donc,
moment...
Donc, il était baptisé, David.
Alors non, il n'était pas baptisé.
Il n'était pas baptisé.
Et alors, justement... Il y a l'anecdote de son baptême qui est quand même extraordinaire.
Oui, et voilà, elle apparaît dans votre ouvrage.
Oui, oui, tout à fait.
C'est ce qui rend le témoignage de David tendre et puis spectaculaire.
Oui, oui. Je peux vous lire là.
Allez-y.
L'anecdote du baptême, en fait. L'été suivant, je fis une halte chez les franciscains de Saint-Palais, en Pays Basque. Là, je fis la connaissance de Ludo, un prêtre belge à la retraite. Ludo paraissait très intéressé par mon parcours et curieux de me connaître mieux. Mon chemin de foi atypique l'interrogeait. Une longue discussion s'ensuivit sur le culte, la liturgie, mais je lui fis part de mon grand désir d'être baptisé. Et le lendemain, après la nuit chez les franciscains, je le retrouve, il vient vers moi, tout sourire. « J'ai prié pour vous une bonne partie de la nuit. J'ai une proposition à vous faire. Si vous voulez, je vous baptise. Mais je ne suis jamais allé au catéchisme de ma vie. Vous êtes tout à fait prêt. D'après notre discussion, vous avez toutes les bases. Vous en savez suffisamment. » Là-dessus, il téléphone à un ami prêtre. Malheureusement, l'ami ne vient pas. Nous l'attendons une heure, deux heures. « Qu'à cela ne tienne, me dit Ludo, j'ai une idée. Vous allez vous acheter un maillot de bain et je vais vous baptiser dans la mer. » 30 minutes plus tard, nous arrivons en Saint-Sébastien, Pays basque espagnol. Nous passons le petit port de pêche de la ville et arriverons sur la promenade maritime qui borde la plage face à la mer Cantabrique. Il y a du monde sur la plage, alors nous dénichons un endroit un peu à l'écart des baigneurs. Ludo reste sur le sable pendant que j'entre dans l'eau. Au loin, comme dans un rêve, résonnent les cris des nageurs. Je pense aux premiers chrétiens, baptisés dans les lacs et les rivières, aux immersions dans l'église primitive. Au creux de mes mains, je recueille de l'eau de mer que je lui porte, puis je m'agenouille sur la grève, il verse l'eau sur ma tête en prononçant ses mots, « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà, il termine en disant « Je viens de recevoir le signe de la grâce et de la nouvelle naissance en Christ. »
Ça ne peut arriver que sur un chemin de Compostelle, des histoires un peu comme l'histoire de David. C'est magnifique. Ça montre aussi l'œuvre de Dieu sur le chemin.
Il y a des choses extraordinaires qui se passent
sur le chemin. C'est extraordinaire, David.
Ouais. Ouais, oui.
Vous êtes toujours en contact avec ce pèlerin infatigable qui est toujours sur le chemin, encore aujourd'hui.
La dernière fois, il y a quelques mois que je l'ai eu... Il est toujours en marche aujourd'hui. On le trouve sur tous les chemins d'Europe, en fait.
On le trouve à Fatima, vous me disiez. On peut le trouver aussi à Assise.
On peut le trouver à Fatima, Assise, à Rome, à Compostelle. Il propose ses services dans les monastères, dans les gîtes, contre un hébergement. Il partage la vie silencieuse des moines. Il participe aux travaux domestiques, au labeur des champs. Enfin, toute l'année, il est en partance. Et,
qu'est-ce qui vous a particulièrement interpellé
chez David?
Chez David.
Sa grande foi, Il est un peu comme les premiers chrétiens, les premiers témoins de Christ. Il vit par la foi et il vit bien et il témoigne très très bien, très très bien de sa foi. Ouais. Voilà.
Ça c'est David, donc on peut rencontrer peut-être par hasard ou par providence David sur un des chemins.
Voilà, ouais. C'est le routard de Dieu.
Voilà, alors si certains peut-être sentent, en vous écoutant depuis ce début de semaine, Michel Gou, peut-être que vous allez peut-être éveiller le désir d'entreprendre ce chemin.
Moi, je l'espère.
De Compostelle, oui. Je vous propose donc de vous retrouver dès demain, même mieux, même heure. On peut aussi découvrir plein de portraits de ces pèlerins qui vous ont particulièrement aussi marqué. Voilà, vous les mettez un petit peu en lumière dans ce livre « Renaître en chemin » paru aux éditions Baudelaire. Alors on reste en chemin avec vous, hein, sur ce chemin,
avec
en fait,
plaisir.
Chemin de Compostelle, chemin de vie, chemin de pèlerin.
À demain. Merci, merci beaucoup.